Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, c'est Sina. Je suis le producteur du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Avec Salomé et Lila, que l'on suit dans leur enquête, on a mis en place un numéro d'appel sécurisé, comme on peut l'entendre à la fin des 6 épisodes de la série. Et on commence à recevoir pas mal de messages.
Parfois, c'est pour nous conforter dans nos révélations sur des abus et des violences au sein de la communauté orthodoxe juive de France. Parfois aussi, c'est pour apporter de nouveaux témoignages.
Des articles de journaux dans la presse locale et nationale ont aussi repris ces révélations. Certains journalistes ont même commencé à poursuivre ce travail d'enquête dans les villes où les rabbins mis en cause ont exercé.
On s'est donc dit qu'il fallait prendre le temps de quelques épisodes bonus pour revenir ensemble sur ce travail d'enquête de 18 mois.
Revenir sur comment on accompagne la prise de parole des victimes dans ce podcast. Et aussi sur comment on a retranscrit celle d'un des rabbins qu'elles mettent en cause.
Raconter aussi comment ces révélations sont accueillies dans la communauté juive et au sein de ces institutions depuis qu'on a commencé à travailler sur cette enquête.
Et puis c'est l'occasion de revenir ensemble aussi sur quelques détails qu'on n'a pas encore partagés. Une sorte de boîte noire de tout ce qu'on n'a pas dit derrière cette enquête produite chez Paradiso Média par Anne-Cécile Kiri en partenariat avec les équipes de Slug News. Je suis Sinamir.
Je suis Lila Bertugo.
Et moi, Salomé Parent-Rajdi.
Et vous écoutez le premier épisode bonus de Thune de Terra. Alors avant de commencer, je vais évidemment rappeler qu'il faut d'abord finir d'écouter les 6 épisodes de la série avant d'attaquer ces bonus. Sinon, soit vous allez vous faire spoiler, soit vous allez pas tout comprendre, et dans les deux cas, c'est dommage. La première question, je vais peut-être te la poser à toi, Salomé, mais tu peux évidemment intervenir quand tu veux, Lila, et vice-versa. Cette enquête, ça fait plus d'un an que vous la portez, avec forcément des bons et des mauvais moments, on va y revenir. Maintenant qu'elle est diffusée, comment on atterrit de tout ça? Et toi, t'as quel sentiment après avoir posé sur la carte des éléments factuels de violences sexuelles répétées au sein de la communauté juive orthodoxe de France? Et juste avant que tu répondes, je rajoute, comme nous le faisons d'ailleurs dans tous les épisodes, que les mises en cause restent présumées innocents en l'attente de suites judiciaires concernant ces violences potentielles.
Quand on s'est dit qu'on voulait commencer à enquêter là-dessus, on a commencé à se renseigner et notamment à faire un peu des posts d'appel à témoignages sur Facebook. Il y a notamment un groupe qui s'appelle Judaïsme et Féminisme, sur lequel il y a pas mal des personnes qui ensuite nous ont aidés tout au long du podcast, et on a fait comme ça un peu un appel à témoignage en disant on est journaliste, etc. Et en fait, c'est très rapidement à ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler à la fois de Déborah et de l'affaire du rabbin numéro 1. Et c'est comme ça qu'on est, qu'on est rentré direct dans cette histoire.
Et donc, vous la contactez suite à ce poste-là. Vous la relancez finalement? Comment ça se passe un petit peu le début de votre enquête?
Alors, dans un premier temps, Déborah, on l'a rencontrée de manière très informelle via, il me semble, Skype, parce que je crois qu'elle était un peu inquiète, même qu'on ait son numéro de téléphone, ce qui est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, et ça, on l'a fait pour toutes les victimes, on leur a toujours dit, vous pouvez nous appeler en numéro privé. Comme ça, vous avez notre numéro, mais nous, on n'aura pas le vôtre. Donc, on a commencé vraiment à la contacter de manière super informelle. Pour juste qu'elle nous raconte, elle nous a tout de suite mis du coup au courant de ses posts. On les a lus, on a vu en effet, et puis petit à petit, elle s'est un peu ouverte. Et très vite, on a organisé une première rencontre avec elle pour qu'elle nous déroule son histoire d'abord personnelle, voilà, mais aussi son histoire par rapport au rabbin numéro 1.
Donc on l'a eu au téléphone, et ensuite on a dû la voir, je pense, 4 ou 5 fois. Et c'est vrai qu'on l'a, les premières fois, c'est vraiment juste à la fin où on l'a enregistré. On a dit, voilà, on fait une interview de manière plus formelle pour le podcast. Mais sinon, c'était vraiment prendre le temps de discuter avec elle, peut-être dans tous les détails, et aussi pour apprendre à se connaître d'un côté comme de l'autre, parce qu'on savait que c'était une histoire qui allait être compliquée, que ça allait être un témoignage pas forcément simple pour elle. Donc on voulait vraiment prendre le temps et pas la brusquer, quoi.
Et donc au départ de cette enquête, il y a ce message posté sur Facebook en 2020 par Déborah qu'on va réécouter.
30 juillet 2020, je viens d'ouvrir les yeux sur ma naïveté. Je vivais dans un monde où le mal n'existait pas, ou plutôt je ne voulais pas le voir, et cela m'a rendue vulnérable et candide. Si on leur disait à ces femmes que les rabbins sont des hommes comme les autres, avec un ego surdimensionné, et que nombreux profiteront de leur position hiérarchique, si au moins on leur disait qu'elles doivent se méfier, aussi dans une synagogue, parce qu'il y a des choses graves qui s'y produisent et que tout le monde se tait, y compris les rabbins. Cet homme d'autorité n'a pas fait ça qu'avec moi. J'ai été une proie sur son terrain de chasse. Et il continue à souiller de nombreuses femmes.
Ce message, c'est un cri d'alarme. Mais pour autant, à l'époque, donc elle le poste sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'elle est déjà dans une démarche de témoigner publiquement, comme elle le fait aussi également à votre micro, face à des journalistes, dans une démarche d'enquête? Comment vous avez géré ça un petit peu?
Je pense qu'à l'époque, Déborah, elle publie ces deux messages, ces deux posts sur son mur Facebook, plutôt pour se décharger de son histoire. C'est vraiment dans un second temps qu'elle a décidé de commencer à en parler autour d'elle, à dire le nom, etc. Ça a été vraiment je pense que c'était une démarche très personnelle pour se libérer aussi de tout ça. Peut-être pour mettre en garde d'autres femmes, parce qu'elle essayait... Au fond d'elle, elle devait savoir qu'il y avait peut-être d'autres femmes qui étaient victimes de cet homme ou d'autres rabbins, et donc mettre en garde aussi sur ce phénomène-là. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, parce que ce message-là, ce post-là, il a attiré énormément d'autres témoignages dans la messagerie de Déborah. Donc, je pense que voilà, ça a été aussi une manière pour elle de se décharger, comme elle l'a fait sur d'autres sujets quand... Elle écrit énormément, et je pense que les réseaux sociaux, ça a été vraiment un espèce de défouloir, un exutoire pour elle, qui du coup, dans le cas de l'affaire du rabbin numéro 1, a énormément servi, et notamment à d'autres victimes, de pouvoir s'identifier dans ce récit et ce témoignage-là.
J'ajouterais que, en fait, je pense que les réseaux sociaux, et notamment Facebook, c'est vraiment un des endroits où, notamment les femmes de la communauté juive, je pense, orthodoxe, échangent beaucoup, en fait, et qu'il y a beaucoup de groupes, et que... Parce qu'il n'y a pas forcément sinon les espaces publics pour le faire. Et que là, c'est un vrai endroit où en plus on peut témoigner anonymement si on veut. Et on peut parler justement de tous les sujets tabous, etc. Enfin, donc je pense que c'est un des vrais espaces de discussion aujourd'hui. Et je pense que c'est assez logique du coup que Déborah elle ait choisi cet espace-là pour commencer à parler de ça.
Et le fait de franchir le pas, et comme vous le disiez, de vous rencontrer d'abord et ensuite d'accepter le micro, ça a été... forcément pas simple, j'imagine, même si elle avait déjà fait ce poste.
Ouais, évidemment, mais je pense que même pour elle, ça rendait aussi toute cette histoire beaucoup plus concrète, de la sortir de la sphère privée, même des réseaux sociaux virtuels. Comme je le disais, quand même, très vite, on a été dans une démarche de se rencontrer, évidemment pas pour l'interviewer directement, mais plutôt pour qu'elle nous en parle. Ce qui a facilité ça aussi, entre guillemets, c'était que personne avant ne s'était intéressé à ça. Et je pense qu'il y avait vraiment un désir de son côté de faire entendre son histoire, de faire entendre ce qui lui était arrivé. Donc aussi, on est arrivé dans un moment où ça a été assez propice à ce qu'elle veuille bien témoigner.
Et pour les autres victimes que vous avez rencontrées, Hélène, Judith, Ève, elles n'avaient jamais parlé du tout, même sur les réseaux sociaux, même anonymement, de ce qui leur était arrivé. Donc j'imagine que là, ça a été encore plus difficile.
Ouais, clairement, ça a été compliqué. Je pense que le fait d'avoir du temps, il s'est passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois entre le moment où on a commencé à leur parler et le moment où on a récupéré leur témoignage. Et je pense que ça a joué pour nous. Et c'est vrai que non, elle s'était pas exprimée avant. Hélène nous avait, elle, par exemple, dit que elle se doutait qu'il devait y avoir d'autres victimes du rabbin numéro 1. Et c'est vrai que ce qu'elle nous a dit, c'est quand Déborah a fait son poste, en fait, elle s'est dit « Ah, mais c'est une libération, enfin, je ne suis pas toute seule. Et là, je peux enfin avoir quelqu'un avec qui échanger là-dessus, quoi. »
Cette première phase d'approche, donc, et de recueil du témoignage, on va appeler ça le temps de l'écoute. Je sais que nous, en tant que journalistes, on essaye d'avoir une gestion la plus délicate possible parce qu'il y a des traumatismes en face. J'ai déjà bossé avec toi, Salomé, sur d'autres enquêtes, justement, à l'époque où tu travaillais sur les musées parisiens et sur des phénomènes de harcèlement et de sexisme au travail. Je sais que voilà, il y a une vigilance sur ce sujet. Maintenant, on n'est pas des psychologues. Il faut obtenir le consentement forcément de la personne, sinon elle ne témoignerait pas. Mais après, cette confiance et cet échange, il se fait sur la durée. Et comment vous le gérez ?
C'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire à chaque fois, de vraiment prendre le temps d'écouter les personnes, être dans l'accompagnement. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est des choses qui sont à la fois... je pense absolument pas faire toujours tout ce qu'il faut, parce qu'en fait, c'est toujours compliqué. C'est vrai qu'il y a quand même un côté où on se dit, ben, elle est où la limite à chaque fois ? Et c'est pas anodin. Donc nous, vraiment, ce qu'on a essayé, c'est d'être les plus précautionneuses possibles, de prendre le temps de répondre avant les entretiens à toutes les angoisses que pouvaient avoir les différentes femmes qui ont accepté de nous parler. On leur disait évidemment que si elles voulaient à un moment faire une pause dans le témoignage, reprendre plus tard, c'était possible, qu'elles pouvaient après changer d'avis si elles le voulaient, qu'il y avait la possibilité, comme on l'a fait, d'anonymiser ou pas les personnes après. Enfin, l'idée, c'était vraiment d'essayer de les rassurer le plus possible. Et avant de faire les entretiens, on prenait aussi le temps de les rassurer, on continuait à le faire après, quoi.
Et je rappelle d'ailleurs que pour toutes ces bonnes pratiques, il y a une sorte de charte qui a été éditée par le Global Investigative Journalism Network, qui rassemble donc les plus grands consortiums de journalisme d'investigation dans le monde, notamment Forbidden Stories ou Disclose en France. C'est très utile et moi je l'ai largement consulté pour préparer cet épisode bonus. Il y a plein de petits points méthodologiques qui permettent aussi de recueillir et d'aider à recueillir la parole des personnes victimes de violences sexuelles. Il y a donc cette phase de contact, il y a cette phase d'approche et puis il y a la phase journalistique aussi de distanciation qui est nécessaire pour l'enquête. J'imagine que c'est moins agréable pour les victimes quand vous commencez à questionner au sens strict du terme leur témoignage, les faits, la concordance, circonstancier en fait leur discours. J'imagine que c'est particulier, que ça peut mal réagir forcément en face.
Oui, carrément. Et d'un autre côté, c'est normal. Et je pense que ça rebondit un peu sur la question d'avant. Mais c'est du coup toute cette question de distance qui est que nous, on est quand même encore dans une place de journaliste. Mais c'est vrai qu'en effet, je pense que c'est hyper violent pour quelqu'un qui vient de livrer un témoignage qui est extrêmement personnel, d'un traumatisme, que, évidemment, là c'est grossier, comment je vais le dire, mais qu'on vienne demander des dates, des faits pour s'assurer, après que tout ça a été dit, pour s'assurer pas de la véracité, mais voilà, que juste nous, on ait une espèce de déroulé des faits qui puissent nous aider. Je pense notamment à Déborah, qui nous a livré son témoignage, et c'est vrai qu'elle nous a livré son témoignage et énormément d'autres choses. On a eu accès à des messages, à des photos, à des échanges avec d'autres victimes. Elle nous a même laissé avoir accès pendant un petit moment à son compte Facebook. Donc c'est vrai que tout ça, ça a été énormément de preuves pour nous. Il a fallu vérifier, et je pense que ça a été un peu violent pour elle. Et d'ailleurs, elle nous l'a dit à un moment donné, que on vienne un peu questionner le déroulé des faits et qu'on soit dans un truc très factuel. Il y a eu un moment donné où on a aussi eu besoin d'elle pour le côté factuel. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de demander ça, mais c'est essentiel dans notre travail de journaliste.
Bah, c'est vrai que moi, c'est ça que je trouve passionnant. C'est ce que tu disais, il y a deux temps. Il y a le temps de la réception de la parole et du témoignage. Et ensuite, il faut regrouper tous les faits, il faut tout vérifier, parce qu'évidemment qu'on ne va pas affirmer des choses si on n'a pas la vérification. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui prend du temps. Et surtout, je pense là, dans notre sujet, on avait aussi beaucoup d'histoires, de choses dont on nous a parlé. On nous dit « oui, mais ça, vous vérifiez, mais moi, j'ai entendu parler de telle chose, de tel fait, et de la qualification même juste de comment on parle de tel événement ou de tel fait ». Et ça, c'était un vrai travail, pour le coup, qui nous a pris du temps, parce que c'est pas parce que 5 personnes nous parlent de telle, je sais pas, par exemple, d'une lettre en disant c'est une lettre d'aveu, que c'est forcément une lettre d'aveu. Enfin voilà, c'est comment est-ce qu'on... Ça dépend qui l'écrit, comment on le réceptionne. Et ça, c'est vrai que c'était des choses qui étaient compliquées à gérer, qui sont passionnantes, mais c'est vrai qu'il y a un vrai moment où il faut prendre de la distance. Et je pense que, pour le coup, on essaie toujours, en fait, de vraiment expliquer aux gens... qui ont témoigné pour nous, c'est quoi un travail d'enquête. Et je pense que c'est important de le dire pour pas justement que les gens disent « mais pourquoi tout d'un coup vous voulez plus me croire ou vous remettez en doute ma parole ?»
Vous avez eu accès d'ailleurs, je pense, à des témoignages qui ne sont pas simplement ceux des victimes elles-mêmes, mais aussi soit de proches, soit de personnes qui ont côtoyé les personnes mises en cause, les rabbins mises en cause.
Ouais.
Et là aussi, c'est aussi facile, ou alors il y a une réticence à témoigner, de pas comprendre forcément l'utilité qu'il y a à témoigner sur ces affaires-là.
Alors là où on a eu de la chance, c'est que les personnes de son entourage qu'on a contacté, en tout cas, étaient plus ou moins au courant de ses agissements. Et du coup, on a pu avoir accès à des personnes qui voulaient aussi changer les choses et qui étaient dans une démarche vraiment de libérer la parole des victimes, quoi.
Mais après, c'est vrai qu'au total, on a dû faire une vingtaine d'interviews, au moins. On a eu des gens qui ont, par exemple, accepté de nous aider et qu'on a eu plusieurs fois au téléphone avant et qui, au moment de vraiment faire, on a dit, ben là, on va faire les interviews. Est-ce que vous voulez participer au podcast? Qui ne voulait plus. On a aussi des gens qui, à un moment, voulaient et puis se sont rétractés. Enfin, donc, en fait, on a eu un peu tous les cas de figure. Voilà, où des gens, pour des raisons diverses, changent d'avis. C'est pas pour ça qu'ils nous aident pas. Et dans l'absolu, il y a plein de gens comme ça qui nous ont vraiment beaucoup aidés, mais qui, au moment de vouloir témoigner, voulaient pas forcément, quoi.
C'est quoi le motif qui est invoqué? C'est la crainte de poursuite judiciaire? C'est la crainte de parler à la place d'une victime? C'est...
Alors, il y a pu avoir la crainte de la plainte. La crainte légale, elle a été énormément invoquée, mais en revanche, c'était plutôt par les victimes. C'est vrai que ce soit pour Déborah, que ce soit pour Eve ou que ce soit pour Hélène, elles nous ont toutes les trois dit à plusieurs reprises qu'elles avaient peur que ça se retourne contre elles légalement, parce que même si elles étaient anonymisées, même si leur voix a été changée, de toute manière, les personnes mises en cause pourraient les retrouver et qu'elles pourraient les attaquer en justice. C'est vrai que nous, ça a été vraiment une crainte qu'on a énormément reçue et qu'on a essayé de désamorcer le plus possible.
Je rappelle d'ailleurs que c'est un devoir de citoyen de témoigner si vous êtes amené à le faire devant un tribunal dans quelconque affaire de ce type, et même si à la fin, la culpabilité d'une personne mise en cause n'est pas établie, vous ne serez jamais poursuivi pour avoir témoigné de bonne foi. Et je réinvite de la même façon donc tous ceux qui écoutent ce podcast et qui pourraient apporter leur témoignage à nous contacter sur le numéro crypté que je redonnerai en fin d'épisode.
Je vous le dis d'emblée, je suis pas un modèle de vertu. Ça, c'est clair. Je pense pas être un homme des ténèbres non plus. C'est-à-dire que, en mon âme et conscience, je peux dire que je n'ai jamais commis aucune violence, ni physique, ni mentale, sur aucune femme. Qu'après, on ait des divergences d'interprétation devant ce qui s'est passé et devant le désastre qui a conclu tout ça, ça, c'est un autre débat. Mais je tiens vraiment à ce point-là.
On vient d'entendre la retranscription du témoignage d'un des rabbins mis en cause dans votre enquête, ce qu'on a appelé la réponse dans l'épisode 5. C'est un exercice pas simple du tout, j'imagine.
Non, clairement. Enfin, moi, je pense que c'était une des premières fois, d'ailleurs, où, pour le coup, même si j'avais travaillé sur d'autres enquêtes qui parlent de violences sexuelles, d'être vraiment comme ça dans un face-à-face avec la personne sur laquelle on a enquêté pendant des mois, c'est un exercice très bizarre, très déstabilisant, ultra intéressant aussi, mais où, pour le coup, ce qu'on disait avec Lila dans le podcast, c'est que c'est à la fois... On a plein d'affaires sur lui, concrètement, c'est un agresseur sexuel, etc. Et quand on le voit, c'est aussi une vraie personne qui arrive et qui prend le temps de nous parler. Et moi, je dis ça pas du tout pour le dédouaner de ce qu'il a fait, mais en tout cas, je trouve que ça rajoute une couche de complexité dans la réception de ce genre de témoignage qui est ultra intéressante, quoi.
On a travaillé pendant un an et demi sur cette personne. On connaissait sa voix, on connaissait sa tête... On connaissait les échanges de messages qu'il avait pu avoir avec des femmes. On avait eu des récits de plusieurs victimes qui nous disaient ce qu'il leur avait fait subir. Donc, c'est vrai que là, de se retrouver face à lui, avec tout ce background qu'on avait, toutes ces histoires, c'était déjà énorme pour nous. Après, il fallait évidemment garder un peu la tête froide pendant tout l'entretien. Avec Salomé, on a énormément parlé avant... On a même mis en place, entre guillemets, une stratégie pour savoir comment on l'interviewait, qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on ne dirait pas. Déjà, évidemment, pour protéger au maximum les victimes, pour qu'ils ne puissent pas identifier à qui on avait parlé, à qui on n'avait pas parlé, d'un côté. Et puis de l'autre aussi, c'est un peu un exercice d'équilibre, quoi. Il faut voir jusqu'où on peut tirer pour avoir des réponses de sa part, jusqu'où on peut aller pour ne pas le braquer, et jusqu'où aussi on peut aller, nous, en bonne conscience, sans être trop complaisante avec lui. Donc c'est vrai que c'était un exercice qui était hyper intéressant et que pour le coup, ni l'une ni l'autre, on n'avait jamais fait. Donc on s'est bien préparé avant.
Et puis il y a la retranscription de ce récit. Là, c'est quelqu'un qui lit son témoignage. Et juste après, on entend ta voix dans l'épisode 5, Salomé. Tout de suite, lorsque le rabbin évoque notamment un sujet de mœurs, parce que c'est comme ça qu'il évoque les faits, par rapport donc aux violences sexuelles potentielles qui lui sont présentées.
J'ai bien compris qu'il y a des choses qui se passent dans les relations hommes-femmes qui font que les femmes peuvent se sentir plus fragiles face aux hommes. Pour moi, le sujet est là. Ensuite, je récuse les accusations d'abus sexuels, de manipulation et d'emprise. Ce n'est pas mon éducation.
Là, franchement, on hallucine. On est face à un rabbin, accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, et qui se permet de nous faire un cours magistral sur la culture du viol, le consentement et le patriarcat.
C'est cet exercice de décryptage ou de recontextualisation a posteriori qui était très important aussi.
On donne un droit de réponse qui ne sont pas obligés. Souvent, c'est la plupart du temps, c'est comme on a fait avec la plupart des rabbins, c'était on leur envoie une liste de questions. Et ensuite, ils nous répondent ou ils ne nous répondent pas. Mais en tout cas, on leur donne le droit de répondre. Et c'est vrai que lui, il a été jusqu'à venir nous rencontrer. Donc rien ne l'y obligeait, mais il l'a fait. Donc c'est à la fois bien. Et c'est vrai qu'après, on s'est dit, bon, bah, c'est bien, mais il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui soit suffisamment équilibré entre le moment où on lui donne la parole et ça permet de comprendre tout ce côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vraiment de le mettre en scène. Parce que dans ses réponses, il est tout le temps à dire à la fois « Je comprends ce que vous me dites et c'est bien votre travail. » Et en même temps, moi, voilà, quand il parle d'affaires de mœurs, je me dis « Mais c'est pas possible d'être dans une telle dissociation, en fait. Enfin, » Mais c'était voilà, comment on trouve l'équilibre entre le laisser parler et toujours recontextualiser ce qu'il nous dit.
Ouais, totalement. Et c'est vrai que du coup, on a aussi un peu utilisé ce témoignage pour mettre au clair certains points de notre enquête. Plutôt que lui donner la parole juste pour lui donner la parole et qu'il vienne faire son mea culpa, on a aussi utilisé voilà, tout ce témoignage, toute cette retranscription, pour mettre au clair certains points sur lesquels on s'était posé des questions pendant l'enquête, notamment sur Aix-en-Provence, notamment sur d'autres affaires.
Et notamment sur cette vision aussi, on va dire, pré-MeToo qu'il a, de sujet de mœurs ou d'affaires de mœurs, qui voudrait que ça doit rester entre deux personnes et dans l'intime, sauf que là... La révolution de MeToo et ce que ça apporte, c'est qu'à partir du moment où on parle de crimes, de viols, d'agressions sexuelles, d'abus divers, abus de faiblesse, par exemple, c'est des qualifications pénales. Donc il y a une utilité, en fait, publique à le savoir, à le révéler et à le dénoncer. Et c'est là pour ceux qui peuvent écouter ce podcast et se poser encore la question de savoir quel est l'intérêt du journaliste à aller creuser là-dedans. C'est là, vous, tout votre travail.
Oui, bah c'est vrai que pour nous, c'est qu'à la fois, là, on parle d'un nombre réduit de rabbins, mais c'est vrai que nous, l'idée, c'était de, en fait, à travers lui, en laissant parler, d'essayer de comprendre, en fait, c'est quoi sa mentalité, c'est quoi d'être un rabbin comme ça dans une position de domination, qu'est-ce que ça peut produire comme effet. Et ça permettait de comprendre justement un peu comment on peut en arriver là, quoi.
Journalistiquement, dans certaines interviews qu'on a pu voir en direct sur des personnes qui étaient mises en cause pour des faits d'agression ou de viol, je pense comme ça spontanément à Nicolas Hulot, l'ancien ministre, ou à Patrick Poivre d'Arvor, quand ils sont allés sur les plateaux en direct, c'est un exercice très compliqué pour les journalistes en face, parce que ils ont leur version des faits, qu'ils exposent à des victimes potentielles qui vont les recevoir en pleine figure. En même temps, comme vous le disiez, il faut garder cette espèce de distance journalistique pour entendre la parole du contradictoire, en l'occurrence, mais en même temps, ça peut exploser à tout moment, en fait, selon la présentation qui est faite. C'est pour ça que derrière, le fait d'être dans un podcast, dans ce genre de récit-là, c'était important.
Ouais, évidemment. C'est vrai que, pour le coup, l'interview qu'on a faite de lui, c'est vrai qu'on a eu besoin aussi, nous, de retranscrire à titre personnel ce que cette personne nous avait dit, et ensuite d'aller chercher un peu ce qu'on voulait ou pas diffuser. Après, il y a eu aussi autre chose qui était importante dans notre travail d'écriture, c'était de vérifier que légalement, rien puisse être juridiquement utilisé contre nous. Ça a été une première chose qui était hyper importante pour nous. Cet entretien avec le rabbin numéro 1 a un peu relancé, en tout cas entre nous, la conversation de choisir de nommer ou pas nommer, qui a été vraiment une vraie conversation entre nous, qui a été un gros débat. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, on assume totalement cette décision, parce que on a le sentiment que ce dont on voulait parler dans ce podcast, au-delà du fait que cet homme ait abusé de plusieurs femmes, c'est de parler d'un système, de parler du fait que ce rabbin ait malheureusement pu continuer d'abuser pendant plusieurs années, une dizaine d'années d'ailleurs, enfin, c'est énorme, d'autres victimes, que ça aurait pu s'arrêter très tôt, notamment, comme on le dit, à Aix-en-Provence, parce qu'à Aix-en-Provence, ils étaient au courant de ce qui se passait, et que voilà, l'institution a systématiquement ou caché, ou déplacé, ou fermer les yeux sur ce qui se passait.
Elles vous ont expliqué pourquoi elles ne voulaient pas que vous nommiez précisément ces rabbins ?
Alors, je pense que pour chacune, les raisons étaient différentes. Il n'y avait pas une raison qui est ressortie. Je sais que pour certaines, c'était en effet le fait qu'il n'y ait pas de prescription. Je pense qu'il y avait aussi une peur de l'ampleur que ça pourrait prendre, tout ça, si le nom était révélé.
Je pense que quand on est la première à parler et à dénoncer quelqu'un, je pense que c'est hyper dur. Le témoignage, c'est une première chose, et je pense que c'est une seconde étape d'assumer, de donner le nom de la personne. Et que je pense que c'est aussi l'effet nombre qui pourra jouer peut-être, parce que je pense notamment au témoignage, enfin avec le rabbin numéro 2, on sait qu'il y a eu d'autres victimes potentielles. Et du coup, ben, peut-être que s'il y avait eu, voilà, je pense que c'est pas du tout la même chose d'être toute seule à assumer, de dire bon, ben, je témoigne pour les autres et je sors du bois et je parle de ces violences sexuelles que j'ai subies ou dont j'ai été témoin, que s'il y a 10 personnes qui acceptent de le faire. Et je pense que là, l'anonymat, c'est aussi des questions qui se posent par rapport à ça, quoi.
Ouais, totalement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, pour le coup, je sais que, et c'était le cas pour Hélène, c'est qu'elle elle n'a rien dit parce qu'elle avait aussi le sentiment qu'il y avait une institution qui protégeait le rabbin numéro 1 et qu'elle se sentait pas à l'aise. Et qu'elle, et après, c'est évidemment, c'est toujours le souci, mais c'est la peur de ne pas être crue, la peur voilà, qu'on oppose une parole qui est beaucoup trop violente. Donc, y avait aussi tout ce côté-là.
C'est là où tu parlais de système tout à l'heure que ça intervient. C'est que même si vous ne pouviez pas nommer les agresseurs potentiels ou les victimes potentielles, vous avez quand même décidé de mener cette enquête. Je prends l'exemple du New York Times aux États-Unis. Si on n'a pas les noms des victimes ou des agresseurs, le New York Times ne publie pas l'enquête. Il y a un moment où vous vous êtes dit, on ne publie pas, on ne diffuse pas.
On ne s'est pas dit ça, mais par contre, on s'est clairement posé la question des fois de est-ce qu'on a suffisamment de témoignages, est-ce qu'on a suffisamment d'histoires pour raconter ce qu'on veut raconter, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des affaires isolées et qu'on veut montrer que c'est quelque chose qui n'existe pas plus, pas moins dans la communauté juive qu'ailleurs. Enfin, je pense que c'est des vraies questions. Est-ce qu'on a des témoignages assez forts? Mais je pense que c'est beaucoup ça dans les enquêtes.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a quand même eu une remise en question un peu permanente. Jamais du bien fondé de l'enquête, mais est-ce que, voilà, on nous a demandé beaucoup de chiffres, on savait qu'à la fin de cette enquête, on allait devoir aller voir les institutions, et donc on savait que vraiment il fallait avoir des faits béton. On n'a jamais, voilà, douté qu'il fallait que cette enquête sorte, et notamment parce qu'on voulait aussi rendre hommage à toutes les victimes qui avaient bien voulu nous faire confiance. En revanche, c'est vrai que nous, on s'est vraiment mis la pression sur notre travail d'enquête, quoi.
C'est en ce sens que tu disais tout à l'heure, on ne voulait pas être attaqué juridiquement sur cette enquête. C'est parce que si ce travail est attaqué, ça peut derrière détruire la parole en fait de beaucoup de personnes qui vous ont fait confiance, c'est ça?
Exactement, voilà, c'est exactement ça.
D'accord. Et maintenant justement, ces femmes que vous avez rencontrées, que vous avez accompagnées pendant 18 mois depuis janvier 2022, est-ce que vous savez si elles ont écouté le podcast? Est-ce que vous avez des premiers retours?
Il y en a une notamment, on sait qu'elle ne l'a pas écoutée pour l'instant et qu'elle ne veut pas l'écouter. Mais elle nous l'avait dit de toute façon dès le début que ça prendrait du temps si jamais elle l'écoutait. Ensuite, non, il y en a d'autres qui nous ont fait des retours et on est contente parce qu'elles sont, elles sont plutôt contentes du travail. Et je pense notamment à une en particulier. Là où on est aussi super contente, c'est qu'elle a reçu un témoignage d'une femme qui lui dit concrètement... Voilà, à l'époque, j'avais du mal à te croire et je m'excuse parce que là, maintenant, je comprends mieux dans quoi est-ce que t'étais et je comprends mieux ce qui s'est passé, pourquoi t'as fait ça. Et ça, quelque part, c'était le plus important pour nous d'avoir... Enfin, c'était important pour nous qu'elles nous disent qu'elles sont contentes du travail et qu'on a été à la hauteur. Et qu'en plus, après, de voir que, ben voilà, il y a aussi des gens qui leur disent « mais maintenant, je te crois voilà, dans ce que tu racontais ».
Vous le dites aussi, vous, à la fin de la série, vous leur dites... vous n'êtes pas seul, on vous croit. C'était important pour vous de le dire à la fin? On n'attend pas ça forcément de journaliste.
Ben, c'est vrai que d'ailleurs, c'était quelque chose dont on a discuté. Et c'est vrai que pour nous, avec Lila, on a conscience que c'est, entre guillemets, on fait un pas de côté par rapport à notre rôle de journaliste. Et que là, c'est Lila et moi, femmes dans une ère post-MeToo qui parlons, et on est toutes les deux d'accord de se dire qu'après avoir fait une enquête qu'on espère rigoureuse, et en disant voilà, là on se base sur des faits, etc., de dire là on sort de notre rôle et on assume de dire on croit à ces femmes-là, et c'est aussi parce qu'on espère que d'autres femmes qui ont été victimes de violences sexuelles se diront ça me motive moi aussi à parler, de me dire que je peux être crue par certaines personnes.
Tu ne te tairas point est une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Media, en association avec Slug News. Si vous souhaitez témoigner à la suite de cette enquête, vous pouvez nous contacter anonymement ou non, sur les messageries cryptées WhatsApp ou Signal, sur le numéro suivant 06 38 35 57, 64. Les données de vos messages seront protégées. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la sortie d'un nouvel épisode bonus. D'ici là, pensez à vous abonner à l'affaire sur votre plateforme d'écoute. C'est gratuit. Et en cochant la case « Suivre » ou « S'abonner », ça vous permet de ne rien manquer. À très vite.